This paper has been slightly modified to optimize your listening experience. While we have included a brief description of the figures and tables, all references, citations, parentheses, appendices, footnotes and endnotes have been removed. To obtain these tables, figures, appendices, full references and citations for this paper, please view the PDF version at the Canadian Journal of Learning and Technology website, www.cjlt.ca. The copyright for this article belongs to the authors and is openly released under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. The title of this article is
Enseignement et évaluation des mathématiques à distance durant la COVID-19.
Distance learning and assessment of mathematics during COVID-19. The authors of this article are
Mélanie Tremblay et Anne-Michel Deloeb, Université du Québec à Rimouski, Campus Lévis. Résumé. La pandémie liée au coronavirus SARS-CoV-2 a entraîné une multitude de mesures visant à contrer sa propagation. Parmi elles, la fermeture des établissements scolaires et le passage non planifié à l'enseignement à distance. Le présent texte explore l'expression de la dynamique d'enseignement-apprentissage-évaluation en mathématiques auprès de 311 enseignants du primaire et du secondaire. Quatre principaux enjeux sont ciblés, l'aisance dans l'utilisation des technologies, l'accessibilité des ressources technologiques chez les élèves, le développement d'une compréhension en profondeur et l'évaluation. L'activité mathématique menée sous la modalité synchrone est davantage discutée et on y constate la place importante prise par l'exposé magistral et la résolution de problèmes issus de manuels. Les savoirs essentiels, l'effort et la participation sont les objets retenus par les enseignants dans l'exercice du jugement en évaluation. Ces objets semblent teintés par les différentes décisions ministérielles qui ont précédé le retour obligatoire à l'école. Mots-clés, enseignement à distance, enseignement apprentissage évaluation, mathématiques, technologie.
Abstract. The SARS-CoV-2 pandemic has resulted in a multitude of measures to counter its spread. These included the closure of schools and an unplanned shift to distance learning. This paper focuses on the teaching-learning devaluation dynamics in mathematics with 311 primary and secondary teachers. Four main issues are identified: comfort in using technology, access to technological resources for students, development of in-depth understanding, and learning assessment. The mathematical activity conducted in a synchronous mode is further discussed, and the importance of knowledge transmission and of textbook-based problem solving is highlighted. Essential knowledge, effort, and participation are the main objects of teachers' attention as they make their judgments in the evaluation process. The choice of these learning objects seems to have been influenced by the various ministerial decisions that preceded the return to compulsory schooling. Keywords: distance learning, teaching learning devaluation dynamics, mathematics, technology.
Introduction. Avec environ 120 000 cas d'infection diagnostiqués, dans 110 pays et territoires, l'Organisation mondiale de la santé déclarait, le 11 mars 2020, le statut de pandémie relativement à la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. En réponse à celle-ci, différentes mesures pour limiter la propagation sont appliquées. Parmi elles, le 12 mars, 1946 pays de 5 continents différents procèdent à la fermeture de leurs établissements d'enseignement aux différents ordres. On assiste alors à un passage accéléré à un enseignement à distance qui n'avait pas été planifié et qui entraîne nombre de défis importants relativement aux activités d'enseignement, apprentissage et d'évaluation. Au Québec, comme ailleurs, l'accessibilité différenciée aux réseaux et au matériel informatique, la formation variée des enseignants tant sur les outils technologiques que sur les modalités d'aide et la mise en place de moyens permettant de répondre aux besoins spécifiques de certains élèves avec ou sans handicap font partie des différents défis auxquels fait face le système éducatif. Ce contexte creuse davantage les inégalités en matière d'apprentissage et affecte les enfants et les jeunes vulnérables de façon disproportionnée. À l'instar du thème principal de l'EDU Summit 2019, Learning and Learning Context, Systemic Perspective on New Alignment in the Digital Age, qui préconise une approche systémique pour mieux saisir les situations d'enseignement et d'apprentissage intégrant les technologies. Le présent article s'intéresse plus particulièrement à l'expression du raisonnement pédagogique en action chez le corps enseignant québécois œuvrant en mathématiques au primaire et au secondaire étant passé à l'aide en mai et juin 2020. Cet article illustre notamment comment l'exercice de son jugement en évaluation a été contraint par différentes décisions ministérielles qui furent elles-mêmes teintées par les précédents enjeux énoncés. La propagation du SARS-CoV-2 au Québec. Au Québec, province canadienne qui compte plus de 8,5 millions d'habitants, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020, soit 2 semaines après la semaine de relâche planifiée dans les établissements scolaires québécois. Pendant plus d'un mois, différentes mesures ont été annoncées par le Premier ministre François Legault. Parmi elles, le respect d'une distanciation sociale, la fermeture des lieux publics, des entreprises offrant des services non essentiels et des établissements scolaires. La suspension des services éducatifs. La fermeture des établissements scolaires a d'abord été décrite par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, comme une période de vacances pour les élèves et étudiants qui devait durer 2 semaines. Motivée ou non par l'incapacité de certains foyers à se connecter à l'Internet à la maison, l'aide n'était pour l'instant pas discutée par le ministre. Le 28 mars, ce dernier annonce 3 mesures pour favoriser la poursuite des apprentissages à la maison sans qu'elles ne soient obligatoires. Il lance l'école ouverte, un site web proposant une variété de ressources ou d'activités ludiques classées selon les différents niveaux du primaire et du secondaire, par discipline ou selon les différentes dimensions de la compétence numérique. Parmi les autres mesures exceptionnelles, la réalisation de capsules éducatives et d'activités animées en partenariat avec la chaîne à vocation culturelle et éducative, Télé-Québec, propriété du gouvernement. Enfin, des trousses pédagogiques développées par le MEI sont mises à la disposition des centres de services scolaires à compter du 6 avril. Le plan du retour en classe graduel. Le 27 avril, en réponse aux divers enjeux soulevés par plusieurs acteurs portant notamment sur le sens donné aux apprentissages, considérés jusqu'ici comme facultatifs, et sur la nécessité d'offrir des services aux élèves en difficulté, le ministre du MEI présente son plan de retour en classe graduel. Ce dernier propose une réouverture des écoles primaires le 11 mai. Au secondaire, le repositionnement du ministre sur l'obligation de poursuivre la scolarisation favorise désormais l'accompagnement par le personnel enseignant et non enseignant des élèves, notamment ceux ayant des besoins particuliers, en difficulté ou en situation d'échec. Cet accompagnement demeure toutefois sous la forme de l'aide pour la grande majorité des élèves de cet ordre. Pour les élèves qui n'ont pas accès à l'Internet ou qui ne disposent pas de ressources matérielles pour y accéder, des prêts de matériel informatique sont annoncés. Ce plan s'accompagne d'une offre gratuite de formation sur l'aide pour tout le personnel enseignant, du préscolaire à l'université, offerte par l'Université du Québec, la TELUQ. En parallèle, plusieurs groupes partagent des ressources et multiplient les webinaires pour accompagner les enseignants ES dans ce passage à l'aide. Le retour en présentiel et la poursuite de l'enseignement à distance. Le 11 mai, plus de 70% des élèves des ordres préscolaires et primaires répondent à la recommandation du ministre et reviennent en classe. L'aide, sous ses modalités synchrone et asynchrone, devient la formule d'enseignement pour tout le corps enseignant du secondaire et pour plusieurs enseignants ES du primaire qui assurent les apprentissages des élèves demeurant à la maison. Pour le corps enseignant, ce passage forcé à l'aide engendre un bouleversement important des pratiques d'enseignement et d'évaluation. Ce défi s'accompagne d'un enjeu d'engagement et de participation chez les élèves dû à la reconnaissance de la réussite de l'année scolaire pour ceux qui avaient déjà un résultat supérieur à 60% aux 2 premières étapes. L'intérêt pour les pratiques d'enseignement et d'évaluation en mathématiques. Au cours de la dernière décennie, différentes recherches sont venues confirmer que l'efficience de l'intégration des technologies en classe s'explique par la combinaison de diverses facettes qui prennent en compte les connaissances sur la discipline enseignée, les connaissances et habiletés technologiques des enseignants ainsi que leur expertise pédagogique. Les pratiques d'enseignement et d'évaluation au primaire et au secondaire sont déjà reconnues comme étant variées et le reflet de diverses tensions. Les pratiques d'enseignement oscillent entre des formules centrées sur l'élève où l'avancement des connaissances s'appuie sur leurs propos et réalisations à des formules où l'enseignant, à l'aide d'exposés magistraux, introduit les savoirs. Ces pratiques dépendent de la conception du corps enseignant de l'activité mathématique à privilégier, notamment. Le passage non planifié à l'aide aux ordres primaires et secondaires force le recours aux technologies à la fois pour l'enseignement et pour l'évaluation des apprentissages. On s'intéresse ici aux pratiques d'enseignement et d'évaluation déclarées d'enseignants ES québécois de mathématiques du primaire et du secondaire qui sont passées à l'aide à la fin de l'année scolaire 2020 due à la propagation de la COVID-19. La dynamique de AE est étudiée en s'attardant aux modalités d'aide. L'identification des formules pédagogiques utilisées par les enseignants ES en modalité synchrone permet d'approcher les activités mathématiques vécues par les élèves. Les objets d'apprentissage considérés importants et pour lesquels le corps enseignant offrira de la rétroaction seront aussi étudiés. Repères conceptuels. L'activité d'enseignement-apprentissage en mathématiques avec la technologie. L'évaluation dans une perspective de soutien aux apprentissages est considérée comme une partie intégrante des activités d'enseignement-apprentissage. Nous avançons l'idée que l'étude de la dynamique de AE éclaire ce que semblent préconiser les enseignants en ce qui a trait aux manières de faire, de dire et de penser espérées chez les élèves. Cet agir mathématique prend en considération l'importance accordée aux connaissances, habileté et manière d'appréhender les situations qui pourront être utiles aux élèves pour le reste de leur vie. Pour mieux saisir les progrès d'un élève, nous suggérons alors l'étude de l'activité de AEU, formulée autrement, l'étude du processus à travers lequel les individus entrent en relation avec des objets culturels et des individus, moments à travers lesquels s'élabore l'expérience humaine. Que l'activité de AEU soit façonnée par la planification de leçons qui prennent fortement appui sur la formule d'enseignement magistral ou sur la proposition de problèmes dits ouverts, avec ou sans intégration de la technologie. L'activité de AEU qui se déroule moment par moment exprime une forme de vie, une énergie qui est formée par les individus dans la poursuite de quelque chose en commun. Les outils qui médiatisent l'activité sont considérés comme partie intégrante de celle-ci. Différents chercheurs qui se sont plus particulièrement intéressés à l'intégration d'outils technologiques expliquent comment leur insertion transforme l'activité de AEU usuelle et ainsi la nature même des savoirs en jeu. Les outils technologiques facilitent certes la coordination de différents registres de représentation d'un même objet mathématique, mais du même souffle ils donnent lieu à une compréhension du concept unique. Plusieurs outils offrent une rétroaction instantanée aux actions menées par un élève. Par exemple, pensons à l'émission de conjectures relativement aux propriétés des angles et des côtés de triangle alors qu'un élève déplace les points libres d'un triangle construit dans un environnement de géométrie dynamique. L'expérience mathématique proposée avec la technologie amène une nouvelle manière de percevoir, de façonner les objets mathématiques. L'activité de AEU peut être caractérisée selon la nature de la compréhension développée par l'élève. On peut ici reprendre les travaux de Skan qui distinguent l'expression d'une compréhension relationnelle de celle d'une compréhension instrumentale. La compréhension relationnelle se décrit comme la connaissance de ce qu'il faut faire et du pourquoi il faut le faire, alors que la compréhension instrumentale est uniquement la possibilité de connaître comment faire, sans savoir pourquoi. Ainsi, un enseignement instrumental sera centré particulièrement sur la connaissance des procédures à effectuer, alors qu'un enseignement relationnel, en plus de cela, s'intéressera à la compréhension des raisonnements sous-jacents à la connaissance de ces procédures. La compréhension relationnelle prend alors en compte les liens à tisser entre un, la reconnaissance d'un concept dans la résolution de problèmes dont les contextes sont réalistes, 2, différents concepts et 3, entre les registres de représentation d'un même concept. On peut formuler l'hypothèse que les formules pédagogiques promues par un enseignant sont le prolongement des conceptualisations précédentes. Perçu sur un continuum, Frazinescu argumente qu'un enseignant varie ses formules d'enseignement et que ses choix s'appuient généralement sur ce qu'il considère important en matière d'activité mathématique. Aux extrêmes du continuum, on retrouve d'une part, les approches qui misent sur l'exploration où l'élève apprend de façon autonome et d'autre part, les approches purement centrées sur l'exposition des savoirs. Le chercheur précise que l'on retrouve rarement les extrêmes en classe. Pour les formules qui tendent davantage vers le pôle découverte, il associe l'approche par problème, la pédagogie du projet, l'apprentissage collaboratif où il importe de considérer le rôle de l'enseignant. Ce dernier pouvant être plus effacé, agir comme guide et ainsi favoriser l'engagement cognitif des élèves dans l'investigation des situations proposées ou, finalement, il peut agir comme présentateur. Il prend alors à sa charge l'introduction des savoirs et les propriétés qui leur sont associées. Les finalités du programme de mathématiques québécois privilégient une conception des savoirs à faire apprendre non plus comme des objets à transmettre et à assimiler, mais comme des objets dont l'appropriation sera rendue possible par le biais d'une orchestration didactique qui s'apparente à l'activité véritable des mathématiciens ES et qui se déploie par le développement de trois compétences. La place prépondérante faite à la résolution de problèmes est ainsi articulée tant comme objet d'étude que comme formule pédagogique. Différents chercheurs argumentent que l'activité de A des mathématiques doit être le lieu où les élèves émettent leurs idées, cherchent à les justifier à leur père et à convaincre ces derniers ainsi que l'enseignant de la valeur de leurs propos. La technologie peut contribuer, d'une part, à favoriser la participation espérée des élèves et, d'autre part, à rendre compte de cette participation de façon différenciée à l'aide d'outils tels que Virtual Mathim ou Desmo. Cela sera possible pour autant qu'il s'agira d'une visée pour l'enseignant E. En considérant ce qui précède, le passage forcé à l'aide conduit à interroger l'activité de AE en matière de savoir agir chez l'élève. Les réponses orientent le choix des outils d'évaluation retenus, les facettes de l'objet pour lesquels l'enseignant accordera une place importante dans son enseignement, mais aussi les choix des outils technologiques ou non qui médiatisent l'activité de AE. L'évaluation des apprentissages en mathématiques. Le ministère de l'Éducation du Québec définit l'évaluation comme la démarche qui permet de porter un jugement sur les savoirs et les compétences développées par l'élève en vue de prendre des décisions et d'agir. Le processus d'évaluation doit s'assurer de répondre à l'objectif d'évaluation fixé préalablement. Il faut ainsi que l'enseignant planifie la nature des apprentissages visés, la façon de les évaluer et à quoi serviront les informations recueillies. Dans une démarche d'évaluation en soutien aux apprentissages, l'enseignant doit recueillir différentes informations sur les apprentissages de sorte à utiliser celles-ci pour aider les élèves à progresser. L'évaluation y est ainsi vue non pas uniquement comme une démarche formelle, mais également comme une démarche informelle qui se déroule de façon continue. Elle vise essentiellement à apporter un soutien à l'élève, qui peut être de nature diverse selon le profil d'apprenant de l'élève, en cours d'apprentissage de sorte à ce que celui-ci puisse progresser en vue d'atteindre la réussite. La prise d'informations sur les apprentissages des élèves en mathématiques présente nombre de défis pour l'enseignant. Les recherches s'étant intéressées aux pratiques évaluatives des enseignants ES en mathématiques indiquent qu'ils utilisent généralement des tâches avec un faible niveau de complexité pour évaluer les apprentissages des élèves. L'évaluation représente d'ailleurs l'un des principaux défis des modèles pédagogiques prenant des pédagogies axées sur des apprentissages dits en profondeur. Le passage vers une approche par compétences encourage cependant la prise en compte de l'expression d'un savoir agir en situation. Considérant cela, les tâches d'évaluation dites complexes sont préconisées. Elles invitent l'élève à s'approprier une situation en vue d'y dégager le modèle mathématique qui permettra de trouver la solution. Ce genre de tâche exige de l'élève qu'il possède une gamme de procédures, de connaissances, mais aussi de stratégies de résolution. Ces tâches se distinguent de celles que certains auteurs nomment de performance ou simples ou encore fermées pour lesquelles l'élève doit plutôt mobiliser des connaissances factuelles ou procédurales. Les activités de AE menées en mathématiques, à distance, auprès des élèves du primaire et secondaire ont été peu documentées dans les écrits scientifiques, à ce jour. Considérant la diversité des environnements d'apprentissage, des applications et des ressources disponibles en ligne, il y a lieu de penser que le contexte de AE à distance peut offrir aux enseignants ES ainsi qu'aux élèves un contexte flexible permettant de varier les approches pédagogiques ainsi que les méthodes d'évaluation. La plupart des moyens utilisés pour recueillir les informations sur les apprentissages des élèves peuvent être administrés dans un contexte d'évaluation asynchrone, par exemple des exercices ou questionnaires écrits ou interactifs, des situations de résolution de problèmes, etc. D'autres moyens peuvent être utilisés dans un contexte d'évaluation synchrone comme l'entretien individuel, la communication orale individuelle ou en équipe, la résolution de problèmes à voix haute, etc. Les études portant sur le contexte d'aide font état de plusieurs avantages pour l'évaluation des apprentissages des élèves, notamment la présentation de différentes occasions de vérification des apprentissages, susceptibles de permettre la régulation de ceux-ci, mais également de l'enseignement. La possibilité d'obtenir des rétroactions rapides, voire instantanées, concernant les apprentissages ainsi que la réduction du stress lié aux évaluations sont aussi abordées. Si les informations recueillies sur les apprentissages des élèves peuvent être obtenues de diverses façons et portées sur des contenus mathématiques de nature différente, leur interprétation peut, elle aussi, se réaliser selon différents procédés. Dans le contexte scolaire, une interprétation basée sur des critères clairement définis et cohérents avec les intentions pédagogiques est fortement recommandée. Le MEI propose d'ailleurs des cadres d'évaluation propres à chacune des disciplines scolaires dans lesquelles sont présentés les critères sur lesquels les enseignants doivent se baser pour interpréter les informations recueillies. Le recours à des critères d'évaluation communs permet d'assurer une certaine uniformité lors de l'interprétation des apprentissages des élèves en établissant des balises claires concernant les attentes. À travers ces différentes étapes liées à la démarche évaluative, l'enseignant doit recourir à son jugement professionnel. Transversal aux différentes étapes de la démarche évaluative, le jugement professionnel consiste en une prise de décision qui repose essentiellement sur les compétences et l'expérience de l'enseignant. Pour rendre ce jugement aussi objectif que possible, il est recommandé d'instrumenter la démarche d'évaluation en collectant des traces écrites ou des observations, à différents moments dans l'année scolaire et ce au moyen de différents outils, de sorte à s'assurer d'accumuler des indices justes sur les apprentissages des élèves en quantité suffisante. Il convient également de s'assurer que les instruments d'évaluation utilisés permettent d'émettre un jugement fiable sur les acquis des élèves qui sont censés être développés. Pour ce faire, les instruments utilisés à l'étape de prise d'information sont d'une grande importance. Méthodologie. Cette recherche s'inscrit dans une visée de compréhension du vécu d'enseignants ES du primaire et du secondaire en édition afin de dresser les contours du phénomène. Une méthodologie mixte est retenue. La collecte des données a été réalisée en deux phases, d'abord par le biais de l'administration d'un questionnaire en ligne, puis, par la réalisation d'entretiens d'explicitation. Le questionnaire en ligne a été administré aux enseignants au primaire et au secondaire en mathématiques des différents centres de services scolaires du Québec. L'échantillon compte 311 participants. De ce nombre, 115 sont des enseignants ES au primaire et 192 sont des enseignants ES au secondaire. 9 enseignants ES qui ont d'abord rempli le questionnaire ont été rencontrés pour réaliser les entretiens d'explicitation. Ces enseignants ES ont été sélectionnés à la suite de l'élaboration de profils différents établis à partir des résultats au questionnaire en tenant compte de la variabilité relative aux modalités d'enseignement retenues, aux formules pédagogiques retenues, aux objets considérés ainsi qu'aux moyens retenus pour évaluer les acquis des élèves. Le questionnaire. Le questionnaire comporte 28 questions et son temps de réponse est d'environ 15 minutes. Il vise à dresser un portrait des pratiques de AE utilisées par les enseignants en temps de crise. Ce questionnaire a été élaboré par les chercheurs et a fait l'objet d'un pré-test auprès de 4 experts, plus spécifiquement 4 enseignants ES d'expérience. Le pré-test a permis de préciser certaines questions afin de les rendre aussi claires et pertinentes que possible pour la population à laquelle il est destiné. Les questions sont à choix multiples. Parmi elles, plusieurs admettent une seule réponse alors que pour d'autres plusieurs réponses sont permises. Celles-ci visent plus spécifiquement à mesurer A, le niveau d'aisance dans l'utilisation des technologies des enseignants, B, l'application et la fréquence de formules moyens pédagogiques en ligne, C, les contenus mathématiques abordés durant la période ciblée, D, la compréhension mathématique promue, E, les objets sur lesquels portent leur rétroaction, F, la nature des soutiens offerts, G, les objets retenus pour rendre compte de la réussite ou non d'un élève à la troisième étape, H, les moyens retenus pour évaluer la réussite ou non et finalement, I, les critères retenus pour exercer leur jugement. Des questions d'ordre socio-démographique ont également été posées pour dresser un portrait des répondants ES. Pour chacune des questions du questionnaire, un traitement statistique a été effectué en y distinguant les données recueillies auprès des enseignants ES du primaire et du secondaire. Pour certains thèmes, une analyse croisée a permis d'établir des liens pour mieux interpréter les résultats. À titre d'exemple, on verra ultérieurement que les résultats relatifs au niveau d'aisance perçu dans l'usage des technologies en ED ont été contrastés par rapport aux résultats relatifs à la question où les enseignants ES ont ciblé les principaux enjeux associés au passage à l'aide. Les entretiens d'explicitation. L'entretien d'explicitation vise la description fine d'une activité passée en situation de pratique professionnelle. Celui-ci a duré entre 30 et 50 minutes. Les techniques associées à cet entretien permettent aux participants d'objectiver certaines actions en les rendant explicites. Le but de cet entretien est de repérer certaines connaissances implicites inscrites dans l'action. Les thèmes A, A, H, préalablement exposés servent de trame de fond pour inviter les participants retenus à illustrer, à l'aide d'exemples de leur pratique, de leur activité. Des énoncés comme « Si j'avais eu à vous remplacer dans le cadre de l'enseignement à distance que vous avez mis en place, qu'aurais ?» Je dû faire pour animer une séance d'enseignement en synchrone afin que vos élèves ne s'aperçoivent pas trop de la substitution. Ces énoncés, bâtis à partir des formules, moyens, soutien retenu par le participant à la suite de la réalisation du questionnaire, ont permis de favoriser le dialogue en ayant comme objectif d'entrer dans les détails du faire et des manières de faire et d'agir de l'enseignant E. Contrairement au questionnaire, l'analyse des données recueillies par le biais des entretiens permet de comprendre comment s'organise l'action de chaque participant par de fines descriptions qui dépassent donc des représentations générales. Résultat. Afin de mieux cerner la dynamique de AE qui a eu cours au printemps 2020, cette section s'amorce par des résultats contextuels sur la formation des enseignants et sur leur niveau d'aisance reconnu dans l'intégration des technologies en mathématiques avant le passage en édition. Les modalités d'aide retenues seront présentées. Suivront les résultats limités à la modalité synchrone soit les formules pédagogiques appliquées, la nature des tâches mathématiques vécues et, finalement, les objets sur lesquels les enseignants ES considèrent avoir offert de la rétroaction. Formation des enseignants et aisance dans l'utilisation des technologies. Le passage forcé à l'aide a motivé la formation continue, formelle ou informelle, des enseignants ES en matière d'intégration des technologies. Tant pour les répondants ES du primaire que du secondaire, les échanges avec des collègues enseignants ou membres de leur direction furent le moyen privilégié de perfectionnement. Les groupes de partage sur les réseaux sociaux ainsi que les vidéoconférences animées par les conseillers et conseillères pédagogiques des centres de services scolaires sont les autres moyens qui ressortent le plus. Pour ce qui concerne la formation offerte par l'Université TELUC dont la conception s'est étendue jusqu'à l'automne 2020, elle a été consultée par 29,9% des répondants en juillet 2020. Au terme de l'année scolaire 2019-2020, 87,8% des participants reconnaissent que ce passage obligé à l'aide leur a permis d'accroître leur niveau d'aisance dans l'utilisation des technologies ou de le maintenir à un niveau jugé bon ou excellent. 71,4% des participants reconnaissent que leur niveau d'aisance était moyen ou bon avant la COVID-19. Toujours au cours de cette période, 43,5% des répondants ES au primaire et 45,3% des répondants ES du secondaire ont jugé leur niveau d'aisance à recourir aux technologies comme moyen à nul. Moins d'un enseignant sur 5 s'accordait un niveau dit excel. En juin, 84,6% des répondants ES s'attribuent un niveau bon ou excellent. Cette augmentation du niveau d'aisance questionne les fonctions et usages attribués aux technologies dans le cadre des activités de AE en mathématiques. Malgré cette progression reconnue par les répondants ES, pour 68,2% des enseignants ES de mathématiques au secondaire et pour plus de 4 enseignants ES sur 5 au primaire, le niveau d'aisance à recourir aux technologies demeure un enjeu fort important dans l'orchestration d'un ED. On peut avancer que la familiarisation aux outils permettant de tenir des vidéoconférences est une phase accomplie pour plusieurs enseignants ES. Toutefois, cela ne signifie pas que les activités de AE menées leur conviennent et qu'elles favorisent les apprentissages visés. Comme le souligne un participant en entretien, utiliser les outils de Teams, j'étais rendu assez à l'aise. Mais je ne peux pas dire que j'ai réussi à bien enseigner tous les concepts. Disons qu'il, elle, fallait que les élèves écoutent bien. Ils ne participaient pas beaucoup, je ne leur posais pas beaucoup de questions. Enjeux vécus en enseignement à distance. Parmi les enjeux proposés dans le questionnaire, ceux retenus par les enseignants ES, tant au primaire qu'au secondaire, permettent de mieux saisir ce qui précède. Tel que l'expose la figure 1, l'accessibilité des ressources technologiques chez les élèves, le niveau d'aisance des enseignants à recourir à la technologie et la valorisation d'une compréhension en profondeur et non uniquement de surface sont des enjeux importants chez les répondants. Figure 1. Enjeux dans l'enseignement à distance de la mathématique. Toutefois, le classement par importance des enjeux diffère selon les ordres. Chez les enseignants ES du primaire, favoriser la participation des élèves et évaluer à distance sont d'autres enjeux importants. L'évaluation des apprentissages au moyen des technologies ainsi que la gestion de la tricherie font partie des enjeux prioritaires relevés chez les enseignants ES du secondaire. La poursuite de l'aide au secondaire alors que les élèves du primaire ont majoritairement repris l'école à la mi-mai 2020 explique fort probablement cette différence. L'enjeu de la tricherie des élèves entraîne avec lui un questionnement sur les modalités d'évaluation. On s'attardera d'abord aux modalités d'aide retenues par les enseignants. Modalités d'enseignement à distance et taux de participation. L'aide offerte par les enseignants du primaire et du secondaire s'est déclinée sous différentes formes. 8,4% des répondants ont déclaré avoir privilégié l'enseignement synchrone, 6,1% l'enseignement asynchrone, 85,2% l'enseignement hybride alors que 0,3% ont spécifié n'avoir retenu aucune des précédentes modalités suggérées. 91,7% des participants du secondaire ont retenu la modalité hybride. Fréquence et taux de participation des séances en modalité synchrone. Parmi les enseignants ES du secondaire qui ont privilégié l'enseignement synchrone ou celui sous une formule hybride, 70 de ces répondants mentionnent avoir tenu 2 rencontres hebdomadaires avec chacun de leurs groupes alors que 55 d'entre eux n'en ont tenu qu'une seule. Tableau 1. Fréquence hebdomadaire des rencontres synchrones. La durée moyenne pondérée de ces rencontres en tenant compte du nombre tenu par chacun des participants est de 48,2 minutes. Au secondaire, 38,5% des répondants ES ont déclaré avoir animé des rencontres entre 40 et 60 minutes. Cet intervalle a été le même pour 47% des enseignants ES du primaire. Le taux de participation des élèves à ces séances d'enseignement synchrone surprend alors que seulement 38,3% des enseignants ES du primaire déclarent que plus de 90% de leurs élèves sont connectés. Au secondaire, la figure 2 permet de constater la variabilité du taux de participation déclaré chez les enseignants ES. Figure 2. Taux de participation des élèves aux rencontres synchrones. Ces résultats laissent entrevoir que la fin de l'année scolaire 2019-2020 a été consacrée à une appropriation des technologies pour assurer la mise en place d'une classe virtuelle. Sans surprise, on observe peu de formules pour lesquelles un outil facilite la collecte des contributions des élèves. Celles-ci ont pu être recueillies oralement à la suite d'un questionnement de l'enseignant aidant, une moindre mesure sous, forme écrite par, le biais de quiz interactif ou encore grâce à un environnement tel que Desmo ou GeoGebra Classroom. Dans ces deux derniers cas, l'enseignant peut proposer à ses élèves une activité qui comporte une variété de tâches mathématiques. Grâce à ces outils, l'enseignant peut visualiser en temps réel les productions et la progression des élèves. Posture de l'élève déclaré en modalité synchrone en grand groupe. Ne pouvant observer finement comment se déroulent en classe les formules pédagogiques définies dans le tableau 2. Nous avons interrogé les enseignants ES spécifiquement sur l'évaluation qu'ils font de la posture des élèves durant l'animation de ces formules en grand groupe. Plus de 60% des répondants ES du secondaire évaluent que pour une séance synchrone leurs élèves sont en posture d'écoute plus de 60% du temps. Au primaire, tel qu'illustré dans la figure 3, 31,3% des enseignants mentionnent que leurs élèves sont en posture d'écoute entre 40 à 60% du temps. Ce qui est en cohérence avec les résultats d'un autre énoncé du questionnaire où 33,9% des enseignants ES de cet ordre déclarent que leurs élèves ont été invités à exprimer leur point de vue oralement ou par écrit entre 40% à 60% du temps. Au secondaire, On n'observe que pour les séances en modalité synchrone, l'expression des idées des élèves est encouragée, mais elle ne caractérise pas les formules pédagogiques retenues durant une séance. Nature des tâches mathématiques proposées sous la modalité synchrone. Au Québec, l'approche par compétence motive une approche par résolution de problèmes en mathématiques. Elle peut donner lieu à la proposition de problèmes ouverts ou de tâches dites complexes, lesquelles se révèlent toutefois être exploitées par un moins grand nombre de répondants. Les enseignants ES du primaire et du secondaire reconnaissent toutefois avoir opté pour une approche par problème. Les résultats qui suivent permettent de mieux cerner la nature de ces problèmes. Ainsi, chez les répondants ES du primaire, 82,8% d'entre eux confirment l'énoncé proposé pour décrire leur pratique. Les problèmes qu'ils ont proposés visent davantage la reconnaissance des concepts qui sont issus d'un même champ mathématique et l'application correcte de processus associés. Au secondaire, ce sont 90,0% des répondants ES qui sont aussi d'accord avec cette affirmation. Comme en témoignent les résultats de la figure 5, pour la majorité des enseignants ES du primaire et du secondaire, les problèmes proposés en ED sous la modalité synchrone ne misent pas sur le travail d'exploration de l'élève ou de recherche de différentes pistes de solutions. Cela ne signifie pas que les problèmes sélectionnés ne peuvent pas être résolus de différentes façons. Si l'on se fie aux résultats d'une autre question, 55,6% des répondants ES du primaire et 50,0% des enseignants ES du secondaire déclarent avoir proposé des tâches où les élèves étaient invités à analyser différentes manières de les résoudre. Les propos d'une enseignante du secondaire permettent de mieux cerner l'apparente contradiction entre les résultats obtenus. Comme elle le souligne, sur mes haies, je montrais différentes façons de résoudre le problème. Je demandais aux élèves de dire leur solution aux autres ou c'est moi qui les montrais. Figure 5. Positionnement d'enseignant sur la proposition de problème d'exploration. Toujours au chapitre des problèmes retenus, l'expression d'un esprit critique chez les élèves est un critère qui est retenu par 35,7% des enseignants ES du secondaire et 32,3% des enseignants ES du primaire. À la question portant sur l'exploitation de problèmes favorisant l'expression de la créativité chez leurs élèves, 16,6% des répondants ES au secondaire et 33,9% des répondants ES au primaire adhèrent à l'énoncé formulé. Ainsi, s'il semble que les problèmes proposés en ED sous la modalité synchrone favorisent davantage l'expression d'une compréhension instrumentale par l'application de procédures, les résultats démontrent aussi un souci chez les enseignants ES de développer une compréhension relationnelle. Plus de la moitié des enseignants ES affirment engager les élèves dans l'analyse de manières différentes de résoudre les problèmes, ce qui contribue sans s'y limiter à développer l'esprit critique des élèves sans qu'ils ne soient d'emblée considérés dans la sélection de tâches. En contrepartie, engager les élèves dans l'expression d'une pensée créatrice n'a pas été au cœur des priorités des enseignants pour la période d'aide forcée. Objet de rétroaction et pour rendre compte des acquis. Les objets évalués et pour lesquels les enseignants ES déclarent offrir de la rétroaction sont usuellement le prolongement des intentions qui motivent l'activité des enseignants ES en matière d'agir mathématique espérée chez leurs élèves. Les résultats présentés dans le tableau 3 indiquent que pour plus de 4 enseignants ES sur 5, et ce, peu importe leur ordre. Les savoirs essentiels en mathématiques sont les objets préconisés tant pour offrir de la rétroaction aux élèves que pour porter leur jugement évaluatif. Considérant les directives du cadre d'évaluation qui mettent de l'avant l'évaluation des compétences pour porter un jugement sur la réussite des élèves, il est surprenant de constater que moins de 40% des enseignants ES du primaire et du secondaire indiquent avoir offert une rétroaction portant sur les compétences à développer ou encore s'y être référé pour évaluer les acquis. Tableau 3. Objet de rétroaction et pour rendre compte des acquis. La prise en compte de l'effort et de la participation des élèves prend ainsi le pas sur les compétences en mathématiques tant comme objet de rétroaction que pour l'évaluation de la troisième étape. L'interprétation de ces résultats doit être située dans le contexte particulier de la fin de l'année scolaire où les enjeux de connectivité et de participation s'expriment. Je voulais juste que mes élèves connectés se sentent bien. J'enseigne dans un milieu défavorisé de Montréal. Ils n'ont pas d'ordi, pas de téléphone ou ils en ont un pour toute la famille. J'avais toujours la moitié de mon groupe qui n'était pas là. J'ai mis dans le bulletin que je n'avais pas pu évaluer. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Évaluer la moitié des élèves et pas les autres parce qu'ils n'étaient pas là. Madame, j'ai mis mon énergie à enseigner, moins à évaluer. À la troisième étape, ma direction avait été claire, pour mettre un élève en échec, ça me prenait des preuves béton si l'élève passait déjà aux premières étapes. J'ai manqué de temps. Je n'ai pas eu le temps de recueillir assez d'informations. J'ai fait passer des élèves qui étaient en difficulté selon moi. Au bulletin, j'ai mis un commentaire sur les efforts de l'élève. La compréhension de l'exercice du jugement évaluatif tel qu'il s'est exprimé en juin 2020 ne peut aussi faire abstraction des impacts de certaines annonces ministérielles selon cet enseignant. Quand le ministre a dit que l'école était finie, j'ai perdu plein d'élèves qui sont allés travailler. Ils ne sont jamais revenus comme d'habitude. J'ai envoyé des commentaires aux parents sur les absences et en même temps, je voulais féliciter les élèves qui continuaient de travailler fort pour réussir. Ça a pris du temps avant qu'on sache ce qu'on pourrait mettre au bulletin. J'étais fière des élèves qui étaient toujours là, qui faisaient les devoirs et qui posaient des questions. Conclusion. Le passage non planifié à l'aide dans le contexte de la pandémie mondiale a forcé l'intégration des technologies. Bien que la majorité des répondants reconnaissent avoir augmenté leur niveau d'aisance à les utiliser, le recours aux technologies demeure parmi les quatre principaux enjeux retenus par les répondants et pour lesquels s'ajoute l'accessibilité aux ressources technologiques pour tous les élèves. L'orchestration d'un enseignement qui favorise une compréhension en profondeur des mathématiques et l'évaluation des apprentissages à l'aide des technologies. Ce texte explore la dynamique de AE qui a eu cours en mai-juin 2020 chez des enseignants ES de mathématiques québécois ES en se limitant aux données recueillies à l'aide d'un questionnaire et de quelques entretiens réalisés. L'identification des formules pédagogiques retenues sous la modalité d'enseignement synchrone confirme la place importante de l'exposé magistral et de la résolution de problèmes. Cette dernière étant très peu menée par le biais d'outils et d'environnements technologiques développés pour favoriser la résolution de problèmes mathématiques. La sélection des problèmes proposés aux élèves ne semble pas d'emblée motivée pour leur potentiel à faire émerger différentes solutions et favoriser la pensée critique. Pour contribuer au développement des compétences en mathématiques, il est important que l'élève ait pu avoir différentes occasions de mobiliser et d'accroître ses connaissances et habiletés dans une variété de situations de plus ou moins grande complexité. Selon notre posture, les choix en matière d'évaluation sont le prolongement de la conception de l'agir mathématique préconisée. Les objets qui sont considérés par les répondants pour l'évaluation à la troisième étape sont similaires à ceux qui sont l'objet d'une rétroaction. Considérant que le PFEC repose, depuis 2001, sur une approche qui vise le développement de compétences, il apparaît étonnant que moins de la moitié des enseignants ES indiquent, en ED, offrir de la rétroaction aux élèves sur les compétences en mathématiques. Il est possible de se questionner à savoir si ce constat est la conséquence d'un ED dont la participation et l'engagement des élèves sont eux. Même influencé par le contexte qui a motivé ce passage à l'aide ou s'il rencontre de pratiques d'évaluation bien ancrées, même avant la pandémie, chez les enseignants ES. Les résultats indiquent que beaucoup d'enseignants ES offrent de la rétroaction et considèrent, dans leur évaluation de la troisième étape, des variables transversales, c'est-à-dire qui ne sont pas liées au domaine de la mathématique, soit la participation et les efforts de l'élève. Il est possible de penser qu'en contexte d'aide la motivation des élèves ainsi que leur engagement envers les tâches représente un réel défi pour les enseignants ES. S'il peut sembler pertinent que la rétroaction porte sur ces différents objets, on peut interroger la valeur de l'évaluation de ces objets en vue de la troisième étape. Ceci ne concerne ni les mathématiques ni les compétences dites transversales du programme de formation. Ces variables ouvrent la porte sur une conceptualisation plus large de l'agir mathématique attendu des enseignants ES. Du même souffle, elle force la réflexion sur la validité du jugement exercé en évaluation à la fin de l'année scolaire 2020. La prise de décision sur la qualité des apprentissages réalisés est usuellement balisée par des critères établis par le ministère. Ces critères renvoient à l'expression des compétences en mathématiques qui ne prennent pas en compte l'effort et la qualité de la participation des élèves. L'interprétation des résultats recueillis renforce la nécessité de considérer leur caractère situé. Le contexte d'aide coloré par les différentes décisions ministérielles qui ont elles-mêmes influencé l'engagement des élèves semble générer des tensions quant à l'analyse chez les enseignants ES des objets évalués. L'étude de la dynamique de AE en mathématiques a été réalisée à partir de données sur les pratiques déclarées des participants sans que nous n'ayons pu observer les activités de AE conduites. La forte possibilité de faire encore appel à l'aide motive la nécessité de s'attarder aux enjeux reconnus par les enseignants ES de manière à réduire les inégalités repérées. L'accessibilité des technologies pour tous et le développement d'une expertise chez les enseignants ES dans l'intégration des technologies pour enseigner, faire apprendre et évaluer. Tel qu'exprimé par nombre de chercheurs, la disponibilité des ressources technologiques ne suffira pas à assurer des apprentissages en profondeur. Auteur. Mélanie Tremblay is Professor of Didactic and Orthopedagogy of Mathematics at the Université du Québec à Rimouski. Et Research Interest Focus on Collaborative Research in Mathematics Education and on the Professional Development of THE. She's a member of Periscope Research Network and of WAPA. Anne-Michel Delobis, a professor of Université du Québec à Rimouski in Measurement and Evaluation. Et work focus specifically on development de validation of measurmental, STUTS assessment de questions related to the evaluation of training. She's part of the Periscope Research Network and of the SERPICO.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial CC by NC 4.0 International License. This is the end of the article. The full text of this article is available at the Canadian Journal of Learning and Technology website, www.cjlt.ca.